Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue, actualité économique du jour. La prime Macron est de retour. Alors, il y a deux étages. Une à 1 000 euros net d'impôt, une à 2 000 euros net d'impôt pour les salariés dits de la deuxième ligne. Mais plus largement, on voit bien que le président veut faire du social, tandis que le pouvoir d'achat était très largement préservé en 2020. Contrairement à d'autres pays, il est resté en moyenne, hein, quasiment inchangé. Alors, est-ce qu'il fallait ou pas économiquement se lancer dans une nouvelle prime? On va en parler. L'Eurogroupe est formel. Hein, la réunion des ministres des Finances de l'Union européenne considère que considère que il faut pas du tout désendetter aujourd'hui, il faut dépenser, il faut soutenir l'économie, même si on a entendu cette musique de la sortie du quoi qu'il en coûte, et on voit qu'en tout cas les Américains sont en plein dedans puisque le plan Biden a été totalement approuvé, validé, à tel point qu'on se demande si une surchauffe de l'économie américaine ne va pas provoquer des écarts de reprise un peu à deux vitesses entre les États-Unis et l'Union européenne. Un petit mot sur Danone, le dernier de la semaine, et puis ce chiffre: entre 2001 et 2019, la dépense publique de la zone euro est restée stable, tandis que celle de la France a pris 3,9 points. C'est une catastrophe, 3,9 points. Mais oui, on dépense beaucoup, on le sait. Quand on voit tous les problèmes que l'on a pu rencontrer, ne serait-ce que dans le système de santé, qui pourtant était présenté comme l'un des meilleurs du monde, on se dit que cet argent public, quelquefois, ne va pas forcément là où il faudrait qu'il aille. L'une des grandes explications, c'est la réforme des retraites. Geoffroy Roux-de-Bézieux, hier, a considéré que cette réforme ne verrait pas le jour d'ici la fin du quinquennat. Bonjour Christian Chavagneux. Bienvenue, éditorialiste à Alternatives économiques, avec à la une, peut-on échapper à la société de consommation, point d'interrogation. Oui, du confinement, hein, Christian. Ça marche très 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 bien. Confiné, on consomme plus. Et on épargne. Il est également auteur des plus belles histoires de l'escroquerie du collier de la reine à l'affaire Madoff au Seuil. Je vous le recommande, hein, celui-là. Enfin, pas que celui-là, mais celui-là. François Eckhall, bonjour.
Bonjour.
Fondateur de Fipeco.fr, professeur d'économie à Paris 1. Alors, ce chiffre que je vous ai indiqué sur la dépense publique analysée, c'est l'une des notes de Fipeco. Je vous invite vraiment à aller voir ce site si vous vous intéressez aux grandes questions. Il y a plein de notes d'analyse sur tous les sujets concernant la comptabilité nationale. Comment on améliore les comptes publics? Est-ce que l'inflation est la solution pour alléger la dette? Oui, hein, normalement, oui. Hein.
Oui, au début, oui. Voilà.
Quelle réforme des prélèvements obligatoires faut-il faire? Pourquoi faut-il réduire les dépenses fiscales? Les dépenses publiques sont-elles trop élevées? Quels sont les obstacles à la réduction de ces dépenses publiques? Vous avez quand même des quantités de questions absolument clés. Et puis les commentaires d'actualité, notamment les dépenses par politique publique en France et dans la zone euro 2001-2019 dont je viens de parler. Pierre-Henri de Menton, bonjour.
Bonjour.
Directeur de la rédaction de Challenge. Oui, à la une de Challenge, la vérité sur le nucléaire, gouffre financier et meilleur ami du climat. Au moment où la France décide de fermer ses centrales à charbon. Qui commence? Je sais pas.
Peut-être un sujet.
Sur quoi? Non, mais sur le fait de faire. Alors, prime à 1000 euros net d'impôt, la classique, celle-là, pour tous les salariés jusqu'à 3 SMIC, 3 693 euros net par mois, à discrétion du patron qui décide de la faire ou pas, de la verser ou pas, jusqu'à 1000 euros. C'est pas une prime de 1000 euros. Et 2000 euros pour les 4 800 000 salariés dits de la deuxième ligne, 17 métiers qui ont été identifiés dans un rapport remis à Elisabeth Borne, c'était vendredi. Mais il y a des conditions. Il faut que l'entreprise ait validé un accord d'intéressement d'ici la fin de l'année ou que la branche ouvre des négociations salariales. Est-ce que c'est le moment, Christian, commencer de faire du social alors qu'on a constaté que la France avait quand même très largement préservé le pouvoir d'achat en 2020? Et là, on fait des mesures de pouvoir d'achat.
Il y a deux questions.
Allez-y.
Il y a Macron fait du social, et là, pardon, mais je ne vous suis pas du tout. Lorsqu'on réduit les allocations des chômeurs, je ne sais pas si on fait du social. Lorsqu'on veut planifier de réduire les retraites, je ne sais pas si on faisait vraiment du social. Donc non, Macron ne fait pas de social. Maintenant, je viens à votre deuxième question. Est-ce qu'il faut augmenter le pouvoir d'achat des gens qui sont au bas de l'échelle? Ma réponse est oui, bien sûr.
Jusqu'à 3 SMIC quand même, là.
Jusqu'à 3 SMIC, parce qu'on est sur des questions d'intéressement, comme vous l'avez dit, et on sait que l'intéressement est distribué de manière extrêmement inégalitaire en France, les plus grandes pour les plus petits, etc. Je ne vous refais pas toutes les stats. Vous avez dit, Nicolas, et pourtant le pouvoir d'achat a été préservé en France. Est-ce que c'est le moment de redonner du pouvoir d'achat alors qu'il a été préservé? Il n'y a pas eu de perte de pouvoir d'achat.
En plus, en grévant les recettes fiscales, puisqu'il y a c'est défiscalisé.
Et donc, quand on regarde plutôt par tranche de revenus, on s'aperçoit que oui, si on va sur les 25% des plus aisés et les 25% les moins aisés, ça n'a pas trop bougé. Mais quand on redescend petit à petit vers les 10%, par exemple, les plus faibles, qui sont les gens qui vont plutôt bénéficier des primes que vous venez d'annoncer. Là, on nous dit, le Conseil d'analyse économique nous a dit qu'on n'a pas augmenté l'épargne, mais ces gens ont plutôt désépargné pour arriver à s'en sortir de la crise. Est-ce qu'il faut les aider ? Se sont endettés parfois. Est-ce qu'il faut les aider ? Oui. Est-ce qu'ils ont joué un rôle important au moment de la crise et de la pandémie ? Bien évidemment. Maintenant, si ça va dans le bon sens, moi, je trouve que la réponse de fond, ce sera il faut augmenter le salaire minimum. La doxa des économistes s'est complètement retournée ces 10 dernières années sur le sujet. On nous expliquait que, là, tous les économistes étaient d'accord, il faut peut-être se méfier, dès que vous augmentiez le salaire minimum, ça détruisait des emplois. Ça fait 10 ans maintenant qu'on a des études, au début américaines, puis maintenant un peu partout dans le monde, Royaume-Uni, Europe, qui nous disent... Non, lorsque vous augmentez le salaire minimum, ça ne détruit pas des emplois jusqu'à un certain niveau. Le niveau qui sort à peu près en ce moment de la doxa, c'est tant que vous êtes à peu près au niveau de 60% du salaire médian, ça, si vous pouvez augmenter le salaire minimum, ça ne détruit pas d'emplois. En France, avec toutes les aides qu'on a, au niveau du salaire minimum, on est plutôt à 40%. Donc, il y a de la marge de manœuvre pour augmenter.
Non, on n'est pas à 40% du salaire médian.
On est à peu près à 60% du salaire médian.
67 même.
67, mais si vous avez tellement d'aides au niveau du SMIC, que vous ne payez jamais.
Les aides au niveau du SMIC.
Toutes les aides que vous avez lorsque vous avez un contrat qui est extrêmement faible. Donc toutes les suppressions de cotisations sociales au niveau du SMIC dont vous pouvez bénéficier. Et lorsque vous prenez en compte toutes ces réductions possibles, vous êtes à peu près à 40% du salaire médian. Donc il y a de la marge de manœuvre, y compris en France. Donc la prime. Oui, parce que n'oublions pas que même si le pouvoir d'achat a été préservé, pour les plus faibles, ça n'a pas été préservé, voire ça a diminué. Mais allons plus loin, augmentons les salaires minimums.
Pas totalement convaincu par votre pourcentage du salaire minimum. Par rapport à ce que vient de dire Christian Chavagneux, Pierre-Henri de Menton.
Oui, moi...
Plutôt que de faire
sur
du
ponctuel... Alors, un point où je suis d'accord, c'est qu'il faut se méfier des moyennes. Hein, effectivement,
oui,
voilà, il vaut mieux, réfléchir ou en médian ou en... Et effectivement... L'impact est pas le même selon le niveau de revenu. Donc
non, mais le CE après, a fait un boulot tout à fait clairvoyant là-dessus.
Voilà. Après, moi, ce qui me frappe la façon dont vous avez lancé le sujet était assez longue parce que c'est extrêmement compliqué. On est toujours dans un problème de lisibilité parce qu'il y a eu la prime Macron hier, mais on a aussi décidé de changer le niveau de la prime lorsqu'on embauche un jeune, par exemple.
C'est jusqu'à
1,6 SMIC. Par contre, on n'a pas changé, mais on a réduit les secteurs pour les embauches d'apprentis.
Oui. Oui.
Tout ça a été changé, mis en place il y a quelques mois, rechangé maintenant. Donc on a toujours ce problème d'usine à gaz, qui est un problème français. Je rappelle qu'on va parler tout à l'heure des États-Unis, mais Donald Trump, comme maintenant Joe Biden, va envoyer un chèque à chaque ménage. Après, on pourrait moduler le chèque en fonction des revenus. C'est pas tellement le cas aux États-Unis, mais ça pourrait l'être.
C'est jusqu'à 5600 euros voilà, par mois de rémunération. C'est pas du tout le bas de l'échelle.
Donc
c'est presque tout.
Voilà, je dis pas qu'il faut faire exactement la même chose, mais au moins cette politique-là, elle a le mérite d'être simple. Là, je parle presque en termes de, parce que vous demandiez si Macron est social. Moi, je porte pas de jugement là-dessus, mais le fait est qu'il aimerait bien l'être, je pense, et dans l'affichage politiquement. Ça serait tellement plus malin d'envoyer un chèque.
Un hélicoptère budget.
Un hélicoptère budget, parce que ça revient au même. Hein.
Oui,
les milliards,
oui.
Ils sont déversés. Hein.
Oui,
alors là, ça passe par des tuyaux avec des rapports, excusez-moi François, mais des rapports d'experts qui vont vous définir les secteurs. Ensuite, il y a des effets de seuil, ensuite, etc. Qu'on arrive dans les usines à gaz. Et je vous recommande la lecture des dépêches hier sur le compte-rendu de ce pauvre Jean Castex qui a fait la litanie toutes les primes, changements de primes, etc. Alors, les entrepreneurs s'y reconnaissent, hein, parce que je vous rappelle quand même que, par exemple, la prime sur les apprentis, il y en a eu 500 000. Hein, donc, ils se reconnaissent, parce que maintenant, les entrepreneurs français sont assez malins. Enfin, ils ont l'habitude de se retrouver dans ce maquis. Mais pour les Français, c'est totalement illisible. Donc,
faut quand même souligner sur... on va parler de Biden, mais les Américains n'ont pas exactement les mêmes transferts sociaux que la France. Et là, en fait, ils sont en train de pallier des difficultés du moment avec ce dispositif.
Mais le fait est que là, on augmente les transferts sociaux. Hein, donc, on les fait passer par des tas de tuyaux. Effectivement, alors, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le SMIC, mais ça serait peut-être plus simple. Ça serait peut-être plus simple d'augmenter le SMIC.
J'étais un peu surpris par les pourcentages de Christian sur le SMIC quand vous déduisez l'ensemble du tissu de dépenses qui est autour, c'est 40% du salaire médian. Est-ce que cette lecture vous semble tenir ou pas? Parce que moi, j'ai en tête, effectivement, l'un des SMIC les plus élevés par rapport au salaire médian de la plupart des pays.
Alors, d'abord, il est vrai que si on augmente le SMIC dans un premier temps, le salaire minimum de manière générale, dans un premier temps, ça a des effets favorables sur l'offre de travail et sur l'emploi. Et c'est sans doute, en effet, le cas aux États-Unis. En France, on a un salaire brut. Un SMIC brut qui est effectivement plutôt de l'ordre de 67% du salaire brut médian. Et historiquement, pour avoir ce qui est un des plus élevés, peut-être même le plus élevé de l'Union européenne, enfin en tout cas sur le podium, historiquement, pour que ça ne détruise pas des emplois, parce qu'en effet, on arrive à un niveau où ça risque de détruire des emplois, où je pense que ça détruit des emplois, historiquement, on a compensé ça pour les entreprises en allégeant les cotisations patronales sur les bas salaires. On a fait ça progressivement depuis 30 ans. J'ai participé, j'étais dans les premiers quand j'étais à Bercy à plaider pour ce genre de mesures. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de cotisations patronales sur les bas salaires. On est à zéro aujourd'hui. Et donc, on ne peut plus continuer dans cette voie. Donc, il a fallu trouver autre chose. Ce qu'on a trouvé ces dernières années, c'est la prime d'activité. C'est-à-dire, en fait, on n'oblige pas les entreprises à augmenter les salaires bruts, mais c'est l'État qui verse, en fait, un complément, une prime d'activité aux salariés modestes.
Jusqu'à 90 euros.
Jusqu'à 90 euros. Bon, on peut augmenter. Alors, le problème qui se pose au gouvernement aujourd'hui, techniquement, c'est qu'il pourrait augmenter la prime d'activité, éventuellement de manière exceptionnelle. Moi, d'ailleurs, j'ai rien contre les dépenses exceptionnelles en ce moment, à partir du moment où elles restent ponctuelles. Bon. Et que ça ne. Après, on pourra reprendre. On en reparlera. On pourra reprendre le contrôle des finances publiques.
La différence, juste, c'est que la prime d'activité n'ouvre pas de droits sociaux, contrairement au salaire minimum brut.
Mais. Le gouvernement est face à un autre problème, c'est que je pense que son objectif aujourd'hui n'est pas d'augmenter les salaires modestes pour tous les salariés. Son objectif, il est politique. On a dit qu'il y avait certains salariés avaient travaillé pendant, et c'est pas tous, avaient travaillé pendant la période de confinement, et c'est cela qu'il faut récompenser. Donc ni la hausse du SMIC ni la prime d'activité ne sont des bons instruments. Donc on va mettre en place, et c'est là où je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, on va être obligé de mettre en place quelque chose d'assez compliqué, dans lequel l'État, dans sa sagesse, va dire, voilà, il y a tel et tel métier dans telle et telle branche qui a travaillé pendant la période de confinement et pour lesquels, eh bien, on va, si les entreprises acceptent de verser une prime supplémentaire, l'État va défiscaliser cette prime, etc. Mais ça va être compliqué, ça va être forcément injuste, parce que les classifications administratives ne correspondent jamais à la réalité. Donc, il y a des gens qui vont avoir cette prime, et puis d'autres ça à côté qui ne l'auront ça pas, parce que, bah, malheureusement, ils n'auront pas le bon métier, ou alors ils seront dans une entreprise. Moi, je donne toujours l'exemple de la boulangerie. Boulangerie-restaurant. Suivant que votre code APE, le jour où vous avez créé votre boulangerie-restaurant, vous avez coché boulangerie, vous avez coché restaurant, vous êtes aidé ou vous n'êtes pas aidé. Bon, c'est absurde, mais on va avoir plein de problèmes de ce genre.
Ouais. Il s'agit d'agriculture, aide à domicile, commerce, distribution, logistique, manutention, sécurité, gardiennage, propreté, transport, bâtiment, construction. Bon.
Non mais c'est très clair.
L'analyse de
mes deux compères disent il faut être politiquement malin. Moi je dis il faut être socialement juste. On a chacun nos objectifs.
On est quand même d'accord pour dire que le SMIC français fait quand même partie des SMIC un peu au taquet.
Avec tout ce qu'a contribué François Eckel quand il était à Bercy, on est au taquet en dessous. On est sous le taquet. Il y a des marges de manœuvre.
Il y a quand même, il faut quand même faire attention parce que il y a quand même, on va dire en bas de l'échelle, une France à deux vitesses, hein, une France de salariés avec peu de revenus, on est d'accord, qui ont pas forcément été les gagnants de la crise, loin de là.
Ah mais ça c'est clair.
Et puis, il y a une France très précaire, hein, des auto-entrepreneurs, etc., où, je rappelle, enfin, on a une forme de... Là, on n'est plus du tout dans ces débats-là, où il y a un vrai problème là, de pauvreté et de misère sociale. Entre un chauffeur Uber Eats et quelqu'un qui est au SMIC dans une grande entreprise, le statut n'est pas du tout le même et le traitement social n'est pas du tout le même. Donc on a toujours ce truc de, quand même, préférence pour le salariat, c'est qui juste. Fait qu'il y a une forme d'injustice, de grande injustice au bas de l'échelle. Et là, je pense que ça, c'est un objectif social important. Oui, c'est en train de bouger, la jurisprudence.
On ne sait pas tellement s'en occuper.
C'est la jurisprudence qui fait petit à petit bouger les choses, y compris aux États-Unis.
Ah, sur les requalifications en contrat de travail. Ah,
bien sûr. Et c'est ça, le vrai enjeu pour moi, il est là, plus que sur ce débat sur l'augmentation du SMIC.
C'est pas l'un ou l'autre, je pense qu'il faut faire les deux.
Non, mais sur les requalifications, oui, ça va porter sur des catégories très particulières. Vous n'avez pas que des indépendants livreurs ou chauffeurs de VTC qui sont à la mouise.
Partout. Et on le voit très bien, le développement, ce qu'on appelle dans le tertiaire, on appelle ça les freelances. C'est une forme de précarisation générale. Donc là, il y a des débats, mais c'est des débats un peu structurels sur le contrat unique, etc. Débats qui ont d'ailleurs complètement disparu. Mais qui sont toujours là dans la structure du marché du travail en France, quoi, qui est vraiment où il y a deux, et on le voit, enfin il y a la protection des salariés qui est l'objectif numéro un des syndicats notamment, et puis ce qui est lutte contre la pauvreté, qui n'est pas la priorité des syndicats et des pouvoirs publics pour l'instant.
Mais on s'est rendu compte.
Et le vrai débat, il est là, à mon avis.
On s'est rendu compte à l'aune de cette difficulté en 2020, c'est qu'on avait une population qu'on avait un petit peu de mal à identifier. Qui passe un peu sous les radars traditionnels des dispositifs pour les identifier.
Bien sûr.
Où il y a requalification, c'est quand un lien de subordination peut être établi entre l'activité qui est réalisée et généralement
la plateforme. Regardez les chiffres de création d'entreprise, c'est très impressionnant. C'est très, très impressionnant.
On voit bien les gens qui créent leur boîte pour avoir de quoi de
vivre. Oui.
L'Eurogroupe nous dit c'est pas le moment de désendetter, il faut dépenser.
Oui.
Oui.
C'est encore le moment, oui. Tant qu'on n'est pas sorti de la crise, je suis favorable à une augmentation du déficit public, assumer le fait que la dette publique augmente, il n'y a aucun problème. Donc on n'est pas sorti de la crise. Tant que la situation sanitaire n'est pas éclaircie, et je ne sais pas quand elle va s'éclaircir, donc il faut continuer, bien sûr. Ça ne veut pas dire que ça doit être éternel. Il y a un moment ou un autre, il faudra en effet revenir en arrière. C'est pour ça que je plaide pour des mesures ponctuelles. Donc moi, augmenter la prime d'activité aujourd'hui exceptionnellement, pourquoi pas, ou n'importe quelle autre prime d'ailleurs, pourquoi pas.
Il y a eu des revenus de remplacement exceptionnels qui avaient été prévus.
À partir du moment où c'est ponctuel, je ne sais pas quand ça sera, en 2022, 2023, le déficit public à ce moment-là pourra d'abord diminuer tout seul, parce que ces mesures vont disparaître. L'activité normalement devrait rebondir quand même un jour ou l'autre, donc il y va. Et puis, à partir d'un certain moment, il faudra arriver à stabiliser la dette publique. Et pour ça, il faudra stabiliser le déficit public. Quels que soient les taux d'intérêt, d'ailleurs, même si les taux d'intérêt restent éternellement proches de zéro, pour stabiliser la dette, il faut commencer par arriver à stabiliser le déficit. Ça va supposer, à partir de... je ne sais pas quand, une fois que la situation sera éclaircie, ça va supposer, si on ne veut pas augmenter les prélèvements continuer à augmenter les prélèvements obligatoires, on est déjà au top niveau quand même, on n'a pas beaucoup de marge, il va falloir arriver à faire en sorte que les dépenses publiques n'augmentent pas plus vite que l'activité. Pour moi, c'est tout l'enjeu des prochaines années. Donc, quand je dis prochaines années, c'est au-delà de 2022.
Quand vous entendez tous ceux qui plaident aujourd'hui des solutions de taxation, justement, face au creusement des inégalités de patrimoine et qui considèrent qu'il faut utiliser l'arme fiscale avec... des grands classiques.
De manière générale, je ne pense pas qu'il faille parler aujourd'hui d'utiliser l'arme fiscale, parce qu'on a parlé d'épargne des ménages. Oui. Une bonne partie de cette épargne, elle vient. Bon, il y a une partie qui vient du fait qu'on ne peut pas consommer pour des raisons physiques. Bon, voilà, ça, on peut espérer ils vont désépargner. Et puis après, il y a certainement une épargne de précaution qui tient à deux choses la peur d'une baisse des revenus futurs, du chômage, voilà, et éventuellement aussi probablement la peur, en effet, d'avoir à supporter des augmentations d'impôts plus tard. C'est le côté un peu ricardien, probablement un côté ricardien dans l'épargne actuelle.
Il y a des économistes qui ne croient pas à cette équivalence ricardienne.
C'est très difficile de toute façon, ça sera toujours très difficile de faire la part, parce que les deux phénomènes sont liés entre la peur du chômage et la peur des hausses d'impôts, ça arrive au même moment. Donc, je ne pense pas que de toute façon, ça soit le moment aujourd'hui de dire aux Français... on va augmenter vos impôts plus tard. Après, en outre, je pense qu'à partir du moment, étant donné qu'on a quand même le niveau d'imposition le plus élevé, peut-être qu'on peut l'augmenter un peu, mais certainement pas beaucoup, on a peu de marge, et puis de toute façon, même si vous augmentez ponctuellement, je ne sais pas, vous rétablissez l'ISF, ben ça vous fait 3 milliards d'euros de plus. 3 milliards d'euros, c'est rien par rapport, je dirais, au montant des déficits. Et donc, il va falloir
trouver autre chose. Le remboursement des tests, c'est 2 milliards 6, hein, je crois.
Le remboursement des tests.
Des tests, hein. Les vaccins, c'est 5 milliards déjà.
Il y avait une petite... C'est un peu de la presse plus que de l'économie très académique, mais 150 années d'ISF pour combler la dette Covid. Vous voulez réagir par rapport à ce qu'on disait, Christian Chavagneux? Donc, solution, on continue de toute façon à dépenser, allons-y. Et puis après, solution fiscale ou pas solution fiscale, équivalence ricardienne ou pas, je ne sais pas, j'ai vu que vous réagissiez.
Juste sur l'épargne, est-ce que c'est de l'épargne de précaution ou est-ce que c'est de l'épargne empêchée parce qu'on ne peut pas consommer? On a eu une petite étude de la Banque de France donc, qui a essayé de faire le partage en disant que c'était un quart d'épargne de précaution et trois quarts d'épargne. C'est-à-dire qu'au moment où ça repart, a priori, on devrait quand même avoir un petit peu d'alimentation de la consommation.
Il y a un grand débat, c'est le débat d'idées. Alors, on parlait avant du débat du jour d'après, et là, c'est le débat dit des années folles. Est-ce qu'on va avoir une frénésie de consommation derrière, comme on a eu après la guerre de 14-18? Ça s'est mal terminé, hein, je vous rappelle. Donc, c'est le grand débat, effectivement. Est-ce qu'on va reprendre l'avion, faire des week-ends à Copenhague ou à Barcelone?
Visiblement, aux États-Unis, ils observent justement qu'il y a des reprises.
Je pense qu'il y a des phénomènes structurels qui font que c'est pas du tout évident. Hein.
Non. Sur l'aérien, le retour à une vraie vie normale.
Voilà.
Mais, alors, continuons.
Sur les impôts. Au sortir des deux guerres mondiales, on a considéré qu'il y avait une partie d'acteurs économiques, une partie de ménages, qui s'étaient enrichis pendant la guerre. Et que on s'enrichit pas sur la mort des gens et sur la destruction. Aujourd'hui, il y a une partie des gens qui pensent que... les statistiques nous montrent qu'il y a une partie des gens qui sont enrichis avec le Covid. Est-ce qu'on s'enrichit sur la mort et sur la maladie des gens? La réponse est plutôt non. C'est Pierre-Cyril Lecoeur, le grand historien économique, qui mettait ça en avant sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se permettre moins de justice sociale qu'au sortir des deux guerres mondiales? Donc la question, c'est pas est-ce qu'il faut augmenter les impôts de tout le monde? C'est est-ce qu'il n'y a pas besoin... Il ne s'agit pas de taxer les riches. Est-ce que, par contre, en termes de justice sociale, il ne faut pas taxer les gagnants de la crise? Et si on taxe les gagnants de la crise, vous prenez les très gros patrimoines qui, généralement, ont bénéficié très rapidement d'un retour à meilleure fortune avec la hausse des bourses, qui ont bénéficié le plus de cette épargne forcée, entre guillemets. Donc, est-ce qu'on taxe du côté des entreprises, les GAFA, etc. On peut identifier les secteurs et les ménages gagnants. Est-ce qu'il ne faut pas une taxation exceptionnelle, comme le demandait Schumpeter, comme le demandait Keynes, comme le demandait Friedrich Hayek, au sortir de ces grands épisodes? On taxe une fois les gagnants de la crise. Je mets un truc n'importe quoi sur la table, ça peut être le débat. Une taxe de 5% sur le patrimoine des 5% les plus riches, ça vous rapporte à peu près 250 milliards. Là, on est dans la cour des grands vis-à-vis des 5% sur le patrimoine des 5% les plus riches qui détiennent à eux seuls un tiers du patrimoine français. Ça vous fait 240-250 milliards. Okay. On est dans la cour des grands face au coût de la dette Covid.
Ah, ce serait le bonheur. On marque une pause, on se retrouve dans un instant, vous réagirez là-dessus. Et puis bon, le quoi qu'il en coûte, il faudra quand même commencer à imaginer la sortie, bien sûr, parce que là, les Américains sont en train de prendre une trajectoire qui n'est pas exactement la même que la nôtre. À tout de suite.
Nicolas Dose accueille les experts.
Christian Chavagneux, éditorialiste à Alternatives économiques, qui a publié les plus belles histoires de l'escroquerie du collier de la reine à l'affaire Madoff au Seuil. À la une du numéro de mars d'Alternatives économiques, peut-on échapper à la société de consommation pour une interrogation. François Eckhall, fondateur de Fipeco.fr, professeur d'éco à Paris 1. Et Pierre-Henri de Menton, directeur de la rédaction de Challenge. À la une du Challenge de cette semaine, la vérité sur le nucléaire, gouffre financier et meilleur ami du climat. Les deux sont vrais, ça faut reconnaître.
Non, il n'y a que la moitié qui est vraie.
Ah, on va pas se lancer là-dedans.
Moi,
sur les particules fines et les...
Objectivement...
Objectivement, je pense que c'est la deuxième partie qui gêne.
Ah bon?
Objectivement, c'est pas nuisible pour le climat.
En termes d'émissions de gaz à effet de serre,
d'économiser 4,5% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde aujourd'hui.
Ben voilà.
Donc si on veut passer à quelque chose d'un peu significatif, il va falloir mettre tous une petite centrale nucléaire dans notre jardin.
Donc d'accord. Donc c'est juste un fait. Après, il y a d'autres problèmes. Hein. On ne nie pas. Oui. Toute source d'énergie pose des problèmes, y compris le nucléaire.
J'ai regardé s'il y avait un commentaire d'actualité sur le nucléaire. Non.
Peut-être sur le
nucléaire. Non, je voulais juste réagir deux secondes sur ce qu'on a dit à la fois sur la dette et les impôts. En fait, c'est amusant, c'est que ces deux mots tabous, hein, le mot annulation personne n'a le droit de le prononcer, parce que le fait même de le prononcer risque de faire monter les taux, donc de créer, c'est le A-word qu'on a pas le droit de dire, mais c'est évident qu'on va arriver, à ça, ou d'une manière ou d'une autre, on utilisera des périphrases, etc. Et l'impôt, c'est pareil, personne n'a le droit de dire, effectivement, vu nos niveaux de prélèvement obligatoire, mais il est certain, l'inflation est la meilleure façon de faire baisser la dette, mais l'autre façon, c'est quand même d'augmenter les impôts, et l'histoire prouve que c'est généralement ou les profiteurs, ça je sais pas, ou les riches qui payent dans ce cas-là. Moi, je vous recommande, j'ai eu la chance de prendre une semaine de vacances, j'ai lu une énorme biographie de Louis XIV. La fin du règne de Louis XIV, vous le savez, est absolument dramatique. Des épidémies, des famines, le royaume était vraiment en lambeaux. Il fait deux choses, il se passe deux choses. Il y a une lettre aux Français, c'est la première fois, donc une sorte de prise de conscience nationale, de sursaut qu'écrit le roi en 1709, et ensuite la mise en place d'impôts auxquels n'échappe personne, y compris et surtout les nobles, qui ont été bien vissés pendant tout le règne d'ailleurs, qui sont devenus assez obéissants, un impôt exceptionnel sur le revenu, qui s'appelle le dixième, et une sorte d'ISF qui s'appelle la capitation. Hein. Donc ça va être les ferments ensuite de la révolte des riches, qui va aboutir à la Révolution française.
Mais il faut rappeler que on fait ça.
Je veux dire, on n'a pas attendu, et on le rappelait, la guerre de 14, c'est l'invention de l'impôt sur le revenu progressif en France, ça correspond.
1914.
Donc c'est évident que ça se produira, mais c'est évident qu'il ne faut pas le dire, puisque le fait des anticipations, c'est pour ça qu'il y a une sorte on va dire de consensus hypocrite autour de ces thèmes, mais c'est évident qu'on y passera. Hein. Alors, ça serait souhaitable que ça soit plus au niveau européen, quelque chose d'intelligent, plutôt que les façons dont on a agi, on va dire, certains pouvoirs socialistes ces dernières années, où on y va tout seul, où même sur la taxe GAFA, on a vu qu'on a du mal à voir, là ça change un petit peu. On a
là,
du
c'est
mal
pas
à
socialiste,
avoir
Bruno Le Maire.
Sur la taxe GAFA, c'est effectivement Bruno Le Maire qui est parti à Fleurophilie.
Vous avez bien entendu historiquement, hein, Louis XVI, il y a eu Louis XIV, mais Louis XVI aussi a voulu réduire le déficit public en mettant une taxe sur les riches. Les riches se sont révoltés, vous avez vu ce que ça a donné.
Il crée la Révolution française est issue effectivement de ça, de la révolte des riches. Quoi.
Le plan Biden, allez, je commence avec vous, Christian Chavagneux. On commence effectivement à se demander s'il va pas y avoir des reprises à deux vitesses.
Non, mais on commence pas à se demander. C'est un changement de stratégie absolument incroyable. On est à la croisée des chemins. Biden, il y a eu 900 milliards de plans de relance de Trump.
Ouais, en décembre.
Biden,
et 2002 en mars 2020.
Donc on avait déjà tout ça. Biden met 1860 milliards de plus. Et on attend 2000 milliards de plans pour développer les infrastructures. En face, pour le mois prochain. En face.
On attend 2000 milliards sur les infrastructures.
Oui, un plan de relance des infrastructures, c'était en tout cas ce qui était promis dans la campagne présidentielle.
Ah oui, oui.
Donc vous voyez.
Là, pour l'instant,
rien.
C'est comme le doublement du SMIC pour l'instant.
C'est la même depuis Trump. Hein. C'est-à-dire qu'on accélère, quel que soit le.
On est en gros à un peu plus de 4800 milliards.
Oui.
D'accord, de dépenses. En face, il y a une réforme fiscale qui devrait aussi arriver, dont les experts nous disent que ça va ramener à peu près 2800 milliards. Donc on est à 2000 milliards supplémentaires de déficit. Donc de dette. J'ai regardé les projections du CBO, Congressional Budget Office du Congrès américain. Il prévoit en 2050 que la dette des États-Unis sera à 200% du PIB. Mmh. Elle est à peu près à 100% du PIB aujourd'hui.
130, ouais. Même au-dessus de.
Au-dessus de 200. Enfin, au-dessus de nous,
non, ça. Aujourd'hui, elle est déjà au-dessus.
Ils sont à 130 aujourd'hui.
Je crois.
Un peu moins en tête.
En projection. En tout cas, ils prévoient 200 à l'horizon de.
La priorité, c'est qu'il y a le hors-bilan dans la dette US. Hein.
Oui, oui, mais.
Pas dans la nôtre. Si on met le hors-bilan dans la dette de la France, on n'est pas à 120, on est bien plus loin.
Si vous prenez le CBO, vous passez de 100. Enfin, vous doublez. D'accord. Quel que soit le critère. Donc, on est sur un game changer total aux États-Unis. Le message de Biden, c'est. Les taux d'intérêt vont rester extrêmement faibles pendant très longtemps. La dette, l'explosion de la dette, on n'en a absolument rien à faire. D'accord ? Moi, c'est comme ça que je lis Biden. Il fait exploser les dépenses, il remonte les recettes, d'accord, pour financer en partie, mais bien plus les dépenses que les recettes. Donc, il dit la dette américaine va exploser et j'en ai rien à faire. D'accord ? Il a raison ou pas, mais en tout cas, c'est son message. Nous, Européens, quand même, hein, on a suspendu les 3% de déficit public, les 60% de dette jusqu'à la fin 2022. Tous les dirigeants européens disent on va pas revenir à 60%. La question c'est qu'est-ce qu'on fait à la place? Clément Beaune, dans les Échos, il y a 15 jours, 3 semaines, il a dit qu'il faut quelque chose qui permette de contenir la progression des dépenses publiques.
Il est le ministre chargé des relations avec l'Union Européenne, ou pas exactement ça,
mais... ministre des Affaires Européennes.
Affaires Européennes, voilà.
On a un conseiller d'Angela Merkel qui dit le frein à la dette constitutionnelle en Allemagne, c'est n'importe quoi, il faudra bien un jour qu'on le supprime. Ouf. Isabelle Schnabel,
ça a été frappant, oui.
Schnabel, qui est membre du directoire de la BCE, qui est aussi une Allemande, qui fait un speech il y a 15 jours en disant « Les politiques monétaires ont été exceptionnelles, non conventionnelles, il faut qu'on passe à des politiques budgétaires non conventionnelles. » En gros, le message de son... c'est les États cracher de l'argent et allez-y à fond.
Déjà un peu non conventionnel, là.
On est déjà un peu non conventionnel, mais elle dit ça il y a 15 jours. Elle dit il faut y aller encore plus. Il faut que vous passiez. Elle dit pas, vous êtes entrés, vous les États, dans une politique budgétaire non conventionnelle. Il faut que vous passiez à des
politiques.
Christine
Lagarde a le même message, en quelque sorte, le FMI aussi, l'OCDE aussi. Bon.
Donc, ça veut dire que les États-Unis, ils ont pris ce choix. Est-ce que nous, en face, on va dire, oh là là, attention, dès qu'il y a un peu de croissance qui revient, il va falloir maîtriser les dépenses, il va falloir maîtriser le déficit. Bah, François Eckel tout à l'heure. Dès que c'est fini, il va falloir que la dépense publique, on la maîtrise pas plus que l'activité, comme François Villeroy de Gallo. On voit bien que le discours n'est pas du tout le même. Qu'est-ce qu'on va faire? J'en sais rien, mais moi, la seule chose qui m'inquiète, c'est que les États-Unis ont fait un choix, que nous, visiblement, on ne fera pas après tout le consensus européen. Mark Rutte, malheureusement, le Premier ministre hollandais va revenir au pouvoir sûrement à la fin des élections de cette semaine. On va avoir les frugaux qui vont pousser, on va trouver un consensus comme toujours en Europe, mais qui va être très très différent du consensus politique américain. À mon avis, l'Europe s'est encore mis une balle dans le pied vis-à-vis des États-Unis.
Moi, juste, avant François, parce que c'est François Eckel qui doit répondre, mais juste pour compléter le propos, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est le... Mais bon, c'est peut-être lié au tempérament américain et au caractère très cyclique de leur économie, mais c'est le bulldozer, effectivement, et en France, enfin en Europe, je vous rappelle quand même qu'on a adopté un plan de relance européen au mois de juillet, hein, historique, avec le game changing, effectivement, le changement vraiment culturel des Allemands.
Les vrais eurobonds, en fait.
Et on l'attend toujours.
On l'attend, la dernière date, maintenant le calendrier, c'est qu'il y a encore 7 pays qui sont assez hostiles, et on attend le 30 avril pour commencer à brancher les tuyaux. Alors ils sont quand même déjà, c'est très technique, mais ils ont déjà un petit peu été branchés, puisqu'il y a une partie des plans de relance nationaux qui va être... Mais on a quand même effectivement une différence de perception. Après, je vais laisser François Eckel répondre sur les montants, mais moi je pense qu'il y a quand même une forme de consensus, mais même ce que disait François tout à l'heure, de consensus en disant il faut y aller, quoi. Hein. Là, aujourd'hui, le sujet n'est pas tellement la dette.
Bon, on n'est pas un pays fédéral en Europe, on n'a pas d'Europe politique, ni d'Europe budgétaire, ni d'Europe fiscale.
On l'a vu, hein, même sur les vaccins, c'est pareil.
On se demande d'ailleurs pourquoi la notion du respect des droits, du respect des libertés publiques en Hongrie, par exemple, est venue s'inviter dans cette histoire de dette, c'est pas tellement lié. François, est-ce qu'il faut dire vive Biden? Et en fait, le bon exemple est là-bas.
Bon, alors, d'abord, moi, je répète, je suis favorable aujourd'hui. J'ai aucun problème avec l'augmentation du déficit ou de la dette publique aujourd'hui. Je dis simplement qu'en effet, il faudra reprendre le contrôle un peu plus tard. Mais ça, c'est ce que disent aussi d'ailleurs les gens de la BCE, de la Commission européenne, enfin, y compris ceux qui ont été cités.
Le message global.
Non conventionnel, politique budgétaire non conventionnelle, c'est aujourd'hui, c'est quoi qu'il en coûte. Voilà, ça, c'est non conventionnel. Mais ça ne veut pas dire que c'est éternellement quoi qu'il en coûte. Voilà. Après, dans les comparaisons avec les États-Unis, il ne faut pas oublier que les États-Unis ont, je dirais structurellement, beaucoup moins de dépenses publiques et de prélèvements obligatoires que nous. Donc, d'un point de vue macroéconomique, ils ont en fait le jeu de ce qu'on appelle les stabilisateurs automatiques, le fait que mécaniquement, lorsque l'activité ralentit, les recettes baissent, les dépenses augmentent, etc., ça joue beaucoup plus en Europe qu'aux États-Unis. Et donc, historiquement, les États-Unis donc ont toujours, au moment des crises, des récessions, ont toujours eu finalement des plans de soutien de l'activité beaucoup plus ambitieux parce que ça compensait en fait le fait que, je dirais de manière permanente, ils ont moins de dépenses et moins de recettes publiques. Donc ça, c'est pas nouveau, c'est normal et la plupart, quand même l'essentiel des mesures dans le plan Biden sont des mesures ponctuelles, temporaires. C'est des chèques qu'on fait aux ménages et on va pas les... Voilà, ils sont pas supposés être versés chaque année jusqu'à la fin des temps. Donc
Donc il y a bien quelque chose aussi aux États-Unis de massif, mais ponctuel. Après, il y a un peu plus, en effet, il y a de l'investissement, mais ça, on ne sait pas très bien l'investissement, quand ils vont le faire, pour combien, etc. Mmh. C'est toujours assez mystérieux, y compris en Europe d'ailleurs. Après, je fais quand même partie de ceux qui pensent, comme Pisani-Ferry et d'autres, etc., que ça va, c'est quand même peut-être un peu trop calibré, calibré un peu trop haut, et que ça va quand même avoir des effets inflationnistes.
Pourquoi ?
Parce que à un moment ou à un autre, lorsque les capacités de production commencent à être tendues, lorsque aujourd'hui il y a des problèmes de rationnement, de des contraintes sur que ce soit les microprocesseurs ou des tas d'autres choses, etc. Donc il y a un moment où les prix augmentent. Alors ça peut être si c'est simplement une hausse ponctuelle des prix, c'est pas de l'inflation. Mais le problème, c'est que quand les prix comme ça tendent à augmenter, les gens commencent à anticiper qu'ils vont continuer à augmenter, et donc l'inflation. Il y a un moment. Alors c'est pas parce qu'on n'a pas vu d'inflation depuis 10 ans que elle va pas repartir. Hein. On ne peut pas tenir compte. Enfin voilà, on peut pas raisonner comme ça. Elle peut repartir. Et je pense qu'il y a en effet
risque
un risque
de surchauffe pour réveiller l'inflation.
Après,
finissez François voilà. Et puis on fait.
Après l'inflation sur
13 minutes.
L'inflation en effet, c'est favorable sur la dette publique dans un premier temps. Le problème de l'inflation, c'est qu'à partir du moment où elle repart, elle peut devenir très difficile à contrôler parce que on l'a bien vu d'ailleurs en France, dans des tas de pays, jusque la désinflation dans les années 80-90 en France a été très difficile. Et en sens inverse, quand on est obligé de faire de la désinflation, ça a des effets, ça rend plus compliqué la maîtrise des finances publiques. Donc un peu d'inflation, très bien, trop d'inflation, c'est pas terrible. Donc je pense que les États-Unis risquent quand même d'avoir un problème de ce type. Maintenant, après, je suis pas macroéconomiste. Je sais que les points de vue sont très divers sur le risque inflationniste.
Le grand débat.
La plupart de ceux que j'ai interrogés ici ne croient pas à un vrai retour de l'inflation. Le problème, c'est que si elle revenait aux États-Unis et qu'elle s'exportait en Europe, là, à un moment, la Banque centrale serait obligée de modifier sa politique monétaire.
D'américains,
et là, à ce moment-là, le surendettement public devient un vrai sujet.
Beaucoup d'économistes américains y croient, notamment des économistes de marché, et vous voyez, et effectivement, c'est là où il y a la courroie de transmission, encore une fois, c'est plus dans les anticipations que dans la réalité, et ce mot inflation, il est, à la différence de annulation, lui, il est prononcé de plus en plus, et ça, la courroie de transmission, c'est le marché dit obligataire, donc celui des dettes d'État, et bon, et s'il y a un problème là-dessus, vous voyez bien que le problème, il est gigantesque, quoi. Donc il y a une crainte, qui traîne là, qui est très malsain, effectivement.
Faut pas qu'il y ait un problème sur les dettes.
Je suis pas macroéconomiste non plus. Il y a beaucoup de débats très très pointus sur le fait est-ce que c'est grave que toutes les matières premières se soient envolées. Le fret maritime a doublé, le pétrole est au plus haut.
Mais ça, c'est ce qu'on appelle l'augmentation des prix relatifs. Voilà, c'est pas de l'inflation. Voilà.
L'OCDE croit pas à l'inflation.
Mais personne n'y croit à l'inflation. À part Olivier Blanchard, pratiquement personne ne croit à l'inflation. Pourquoi ? Parce que dans une économie ouverte, quand vous relancez beaucoup la demande intérieure et que vous avez des tensions sur l'appareil productif, ça augmente les importations. Voilà ce que ça fait en termes macroéconomiques. Et regardez, Patrick Artus a fait le calcul des 10 dernières augmentations de demande interne aux États-Unis quand la demande interne a explosé, parce que comme l'a dit François Eckel, souvent ils sont obligés de remettre beaucoup, beaucoup. Mais à chaque fois, ça s'est traduit par un creusement énorme du déficit commercial américain, qui va se creuser. C'est pour ça qu'il n'y aura pas d'inflation du côté de la tension de l'appareil productif. Mais évidemment, si on est en panne de semi-conducteurs et tout ça, mais ça, c'est pas lié au plan de relance, c'est lié à d'autres problèmes. Et puis, deuxièmement, il n'y aura pas, contrairement à ce que dit Olivier Blanchard, qui dit qu'avec un 6% de taux de chômage aux États-Unis, on va relancer tellement à fond qu'on va se retrouver vraiment demain matin rapidement au plein emploi. Et c'est qu'il n'y a pas 6% de taux de chômage aux États-Unis avec tous les gens qui sont découragés, qui vont revenir sur le marché du travail. On est plutôt à 10%, le halo du chômage. On est à 10, 11%, on n'est pas à 6. Donc, avant qu'il y ait de l'inflation salariale, il va se passer du temps. C'est pour ça que moi, je pense qu'il n'y aura pas d'inflation avant très, très, très longtemps aux États-Unis. Il peut y avoir des augmentation de prix relatifs, le pétrole, les semi-conducteurs, mais il n'y aura pas d'inflation aux États-Unis. Et s'il y a un petit peu d'inflation, les banques centrales ont dit c'est super, si on pouvait en avoir un petit peu pendant quelques années, on va regarder maintenant en moyenne.
C'est ce qu'ils disent depuis 10 ans.
Voilà. La Fed qui prend ça comme pivot.
Oui, mais dans la revue stratégique aussi, de la BCE, ça va être fait.
Ça va probablement être fait.
Donc on va avoir du 3-4% d'inflation. Si un jour ça revient, on va pouvoir se permettre plusieurs années avec 3-4% d'inflation. En attendant, les banques centrales, on a vu la BCE la semaine dernière. S'il y a une petite tension sur les taux, boum, elle met le paquet en disant de toute façon, moi je vais intervenir. revenir sur les marchés, vous allez me calmer ça tout de suite. Bah, du coup, ça retombe. Mais,
vous voyez,
ça
par
retombe.
Exemple, le président de la Banque Centrale américaine, bon, ce débat est très présent, plus présent aux États-Unis, ce qui est un peu logique vu l'ampleur des déversements de milliards là-bas. Et ben la dernière fois qu'il a parlé, il n'a pas été tellement écouté. Hein. Ça a provoqué. Vous voyez, je vous rappelle quand même que Christine Lagarde au début de la crise, une parole malheureuse.
Elle n'est pas là pour contrôler les spreads. Ouais. Elle l'a redit jeudi dernier.
Et hop, la dette italienne est partie en vrille. Ça a duré quelques heures, hein, parce qu'avant même la fin de son intervention, elle a continué en disant le contraire de ce qu'elle venait de dire au début, parce qu'il y avait quelqu'un à la BCE qui regardait son écran Reuters.
Elle l'a redit jeudi dernier et les taux ont baissé. Voilà. Donc maintenant, je pense qu'on
est. Non, mais c'est pour la parole des banquiers centraux et n'est pas non plus.
Les économistes de marché surestiment toujours historiquement l'inflation. Depuis que je m'occupe de ce sujet.
Il y a un moment, il faut prendre ses bénéfices. Bon. Et c'est vrai
pour l'instant, avec les éléments factuels dont on dispose, je pense que Christian a plutôt raison. Y a pas
en tout cas, le débat est relancé.
Marqué d'une pierre blanche. Nicolas dit que j'ai raison. Depuis 15 ans aux experts, pour une fois, ça y est, j'ai raison une fois.
On va en remettre des pierres blanches.
Je vais revenir.
Il y aura d'autres. J'espère bien. J'ai deux sujets. Il nous reste un peu moins, un tout petit. Allez, 9 minutes. Bon, le sujet, on va aller vite, mais est-ce qu'il y en a un qui a un avis sur ce qui s'est passé chez Danone? Est-ce qu'il y en a un qui veut s'exprimer là-dessus? Ou sinon qu'il se taise à jamais. Est-ce que là, on a finalement les fonds activistes, le capitalisme qu'il a emporté sur cette entreprise qui avait décidé de devenir entreprise de mission et ce patron engagé d'ailleurs exactement comme Antoine Riboud l'avait été à l'origine, si les notions de raison d'être et d'entreprise à mission n'existaient pas.
Non, enfin, c'est une sorte de, pour moi, de gâchis. Hein, je vous rappelle donc que c'est la première... Le gâchis, c'est Emmanuel Faber. Parce que Emmanuel Faber est quelqu'un de très paradoxal, c'est un directeur financier, hein, il vient de là. Moi, je ne suis pas certain que les directeurs financiers soient faits pour diriger les entreprises, mais c'est sa culture, quand même.
Et attention à François Véa.
Il a une autre culture, c'est quelqu'un qui est très, on va dire, engagé, de toutes sortes de points de vue, y compris spirituel, et il est parti en croisade, donc pour transformer ce groupe en entreprise à mission, en quasi ONG, si vous voulez. Réellement.
C'est peut-être un peu ce qu'on lui reproche, c'est
pas. Non, mais réellement. Et quand vous regardez sérieusement, alors il y a eu après, je pense, c'est un problème humain de pouvoir, parce que quelqu'un d'ambitieux qui s'est accroché en dépit de tout, ces dernières semaines ont été catastrophiques.
C'était complexe.
Avoir la vidéo qu'il fait en interne, etc. C'est quand même, c'était plus possible. Il n'avait plus de légitimité, donc c'était évident que ça allait partir là. Changement d'administrateur référent 3 fois en 6 mois, etc. Enfin, une grande instabilité dans cette période-là. On peut pas. C'est comme un gouvernement. Enfin, c'est comme un État. Ce genre.
Et donc, sur les activistes, on fait quelque chose.
Les activistes. Moi, je vous recommande de lire la lettre de Artisan. Donc, qui est pas un activiste comme on l'imagine. C'est pas Elliott. Hein. C'est un petit peu différent. C'est un très grand fonds. Artisan ne dit pas faut gagner du pognon le plus vite possible, etc.
Non, on n'a pas lu la même lettre. Hein.
Artisan s'en prend à la gouvernance, principalement à la gouvernance.
Et au plan lobby.
Total, EBITDA, etc. C'est Emmanuel Faber qui l'a pris il y a 2 mois, hein, avec un changement radical de cap qui a déstabilisé toutes ses équipes. Donc on peut pas. C'est un peu facile. Ouais. Les méchants anglo-saxons, le gentil français cathédrale. Danone, etc. Le conseil d'administration était avec des copains, des gens, des anciens copains, très français.
C'est le CAC 40.
On se demande ce que Monsieur Riboud fait encore au conseil d'administration. Hein, pourquoi? Quelle légitimité il pouvait avoir? Il y a des personnes qui étaient là, on ne sait pas très bien, pas d'administrateurs indépendants, donc des failles vraiment de gouvernance d'entreprise, et qu'on voit d'ailleurs se développer dans d'autres boîtes françaises en ce moment. Hein,
comme vous dites, il y a souvent des aspects humains que les observateurs ne perçoivent pas dans leur
Contexte. Moi, c'est ma grande théorie, c'est que c'est très souvent des aspects humains
qui ne sont pas dans les communiqués, les analyses. Allez-y, un mot là-dessus.
C'était pas bon d'avoir un PDG. C'est la bonne gouvernance, c'est d'avoir un président et un directeur général. Donc ça, il y avait une erreur chez Danone de ce point de vue-là. Ok. Néanmoins, moi, les interviews que j'ai vues des dirigeants de Bluebell et d'artisans.
Alors Bluebell, c'est un tout petit. Hein, l'artisan, lui, ouais. il a plus de légitimité.
On a regardé quand même en 2020 marge opérationnelle, c'est-à-dire machin, 14. Bidule financier, hein, marge opérationnelle 14, Nestlé pas loin de 18. Qu'est-ce que vous foutez, Dan? Attends, on est dans une économie mondiale en pleine récession. Marge opérationnelle de 14. C'est quand même déjà énorme. Comment il a fait pour sortir 14 dans une économie mondiale qui s'effondre. Le journaliste lui dit, oh, bah, attendez, 14, 18, c'est pas très loin dans une économie qui s'effondre. Ah non, mais on a regardé sur 7 ans, depuis qu'Emmanuel Faber est là, en gros. Hein.
Il est patron depuis 2017, hein, PDG.
Ouais. Mais, PDG, mais il était, il était DG avant, il était directeur financier avant. Donc il a quand même une grosse implication sur les résultats aujourd'hui. Et regardez, vous regardez les plus-values boursières, le rendement boursier, 30% sur l'action Danone, 70, 80, 90%. Donc la motivation intrinsèque, elle est, ça ne crache pas assez. Pourquoi le fonds activiste, ça veut dire quoi activiste? Ils repèrent des entreprises qui sont plutôt grosses, dont ils pensent que la performance pourrait être un peu supérieure. Ils arrivent, ils virent le patron, mettent leur stratégie et en un mois, en un an, en cinq ans, si l'action vaut plus, ils revendent et ils gagnent de l'argent. C'est ça le principe du fonds activiste. Et c'est vraiment que ce soit des clés à molette.
C'est le principe d'un marché boursier.
Que ce soit des clés à molette ou qu'ils n'interviennent que sur le marché secondaire de la dette, ils ne viennent pas mettre du capital pour créer des entreprises. Ils rachètent des actions d'entreprises secondaires, que ce soit des clés à molette, des yaourts.
Non mais, Christian, laissez-moi très finir. Bien. Non mais, très bien.
Je finis quand même. On peut même pas finir ce qu'on dit.
Finissez, Christian. Mais là, j'ai 350, c'est pas beaucoup.
Ouais, mais ce que je voulais dire, c'est que la loi Pacte nous a dit c'est fini tout ça. Parce qu'avec la loi Pacte, déjà, on change le code civil. Maintenant, il va falloir respecter vos impacts sociaux et environnementaux lorsque vous êtes une entreprise. Et en plus, vous avez une option, enfin deux options, qui vous pouvez vous donner une raison d'être. Ce qu'a fait Danone, donner des aliments pour la santé dans le monde, c'est ça sa raison d'être. Et en plus, vous pouvez devenir entreprise à mission. Entreprise à mission, Danone, c'est la seule du CAC 40. Il y a 85-90 entreprises françaises sont devenues entreprises à mission. C'est-à-dire, c'est un flop total. Qu'est-ce que ça nous dit, l'histoire de Danone? Alors que les syndicats, il y a quand même rarement le leader de la CFDT et de FO qui vient de dire, on veut virer le patron, il faut le garder. C'est quand même assez rare. Qu'est-ce qui se serait passé si on avait 30 à 50% de représentants des salariés au conseil d'administration? Ça ne se serait pas passé comme ça. 99% des actionnaires, 99% des actionnaires ont dit, il faut mettre de côté un peu les résultats financiers. Et les activistes qui ont 1%, c'est la queue qui a remué le chien. Bon. On dit, il faut mettre le gars dehors parce que ça ne crache pas assez financièrement.
Artisan à 3%.
La loi Pacte ne nous a pas assez protégés.
Je ne sais pas comment avec aussi peu de part du capital, ils peuvent être aussi puissants, mais bon.
Le problème, c'est l'alignement des valeurs. Hein, on va être très très cash. Le principal producteur de bouteilles en plastique dans le monde devient une entreprise à mission. C'est compliqué à gérer. Hein, et il est hors de question de vendre cette activité. Elle fait partie du core business, etc. Artisan proposait notamment de vendre l'eau. Hein, je dis, ne voyons pas tout de façon manichéenne. Les méchants activistes anglo-saxons d'un côté et des Français formidables avec des valeurs, etc. C'est une boîte qui est pleine de contradictions extrêmement compliquées et le personnage est d'une complexité inouïe et illisible à la fois pour ses salariés et pour les investisseurs actionnaires.
Entre 2001 et 2019, la dépense publique dans la zone euro est restée stable. François Eckhall, celle de la France a augmenté de 3,9 points. On ne va pas crier au loup. Parfois, on se demande où va la dépense publique quand on voit que les profs ne sont pas assez payés, que l'hôpital ça ne va pas, qu'il y a plein d'endroits et pourtant on en dépense des sous. Et vous avez donc fait cette observation pour arriver à la conclusion que la principale explication c'était
Les retraites, bah, c'est normal, c'est dans tous les pays, c'est le poste le plus important. Hein. Donc c'est en effet celui qui explique principalement l'écart entre les dépenses publiques et de la France et de la zone euro. Mais quand on regarde cette répartition par politique publique ou par fonction, ce qu'on voit en fait, c'est que c'est quasiment sur tous les postes en fait que la dépense publique française est plus élevée que la moyenne de la zone euro. À une ou deux exceptions près, intéressantes, c'est par exemple la fonction, c'est sécurité intérieure et justice, pour lesquels on dépense un peu moins que les autres pays, et ça vient surtout de la justice, en fait. Et puis, ça c'est plus étonnant, ça surprendra beaucoup de gens, il y a une fonction, cette classification d'Eurostat, qui s'appelle services généraux, et qui correspond finalement au coût des assemblées, de la présidence, aussi bien de l'État que des collectivités locales, les fonctions support, les finances, Bercy, la fonction de représentation, le Quai d'Orsay, etc. Et cette fonction-là, elle coûte à peu près, en termes en pourcentage du PIB, la même chose en France et dans les autres pays de la zone euro.
C'est combien
et
plus, quel pourcentage
4%, 4% du PIB. Et ce qui est encore plus ce qui est encore plus étonnant, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que de 2001 à 2019, elle a beaucoup baissé en France. Elle a baissé de 0,8 points de PIB, alors qu'elle est restée à peu près stable dans les autres pays. Ce qui veut dire que quand les Français disent le problème, c'est le train de vie de l'État, gna gna, mais non, c'est pas ça. Au contraire, c'est peut-être justement sur ces fonctions-là qu'on a fait le plus d'efforts au cours de ces 20 dernières années, sur les fonctions centrales en fait.
Il y a les collectivités locales,
oui, on a fini y compris les collectivités locales. Voilà.
Passionnant. Hein. Et il faudra retraiter. Hein. Par exemple, en Allemagne, il n'y a pas de crèche, chez nous, il y a des crèches. Finalement, il y a plus de dépenses.
Ce qui veut dire que les retraites.
Les hôpitaux en Allemagne, ce n'est pas considéré une dépense publique alors que c'est de la dépense publique.
Non, c'est pas. C'est les hôpitaux là. C'est de la dépense publique, mais ce n'est pas dans l'emploi public en revanche. Parce que voilà.
Mais la conclusion de François Eckel, c'est clair. Vous voulez vraiment réduire les dépenses publiques en France, il faut tailler dans les retraites. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas de trésor caché. On va gagner des petits milliards comme ça. Et voilà.
Bon, on a fini malheureusement.
Ça, il faut pas le faire.
J'aurais beaucoup aimé ouvrir le débat sur les retraites qui a été un peu rouvert par Jean-Paul Gaulle. Qu'est-ce qu'il a dit, la chute?
Il dit la seule solution, on est tous d'accord, c'est tailler dans les retraites.
Mais il ne faut pas le faire.
Donc, il faut nous réinviter. Ça sera en 2022, vous avez le temps.
J'y compte bien. Peut-on échapper à la société de consommation alternatives économiques de ce mois de mars? C'est la vérité sur le nucléaire. C'est à la une de Challenge de cette semaine. Merci Christian Chavagneux, François Eckel, Pierre-Henri de Menton, demain 9h.